L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette édition de L'un dans l'autre, le magazine d'information locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
On en entend parler sans vraiment savoir à quoi ils correspondent, et c'est d'autant plus troublant qu'il n'y en a pas deux pareils. Je parle des tiers-lieux. Ils peuvent être espaces de coworking, lieux ressources pour les habitants, espaces culturels ou même agricoles, Fab Lab.
D'ailleurs, pour en savoir plus sur les Fab Labs, réécoutez notre magazine du 13 mai, disponible sur le site de radio-b.fr.
Bref, vous l'aurez compris, les tiers-lieux sont multiformes. Découvrez la fabrique du Revermont en interview.
Mais tout de suite, le reste de l'actu en bref.
L'un dans l'autre, les brèves. Législative, la campagne est lancée depuis une semaine.
Ça y est, tous les candidats, candidates qui veulent se présenter aux législatives pour devenir députés sont connus.
Mais au fait, à quoi ça sert un député, Elsa ?
Élus pour 5 ans, les députés représentent les électeurs de leur circonscription et sont chargés de porter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. Cette représentation implique que chaque député prenne connaissance des attentes et des besoins des habitants et qu'il maintienne une communication avec eux pour les tenir informés des travaux parlementaires.
Le rôle d'un député est aussi de participer à l'élaboration des lois. Ils peuvent en proposer ou demander des modifications en débattant des textes présentés au sein de l'hémicycle. Ils exercent aussi un contrôle sur l'action du gouvernement, donc des ministres.
Depuis le lancement de la campagne, les candidats et leurs partis sont désormais soumis à un certain nombre de règles imposées par l'ARCOM.
L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, elle veille au respect du pluralisme dans les médias.
Pour comprendre comment ces temps de parole sont décomptés, nous avons posé nos questions à Christine Derville, secrétaire générale à l'ARCOM Lyon, qui nous rappelle dans un premier temps le rôle de cette administration.
Alors l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a été créée donc en janvier 2022 et qui est le produit de la fusion entre l'ex-conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait en charge de la régulation des médias audiovisuels, pour simplifier, et de l'ADOPI, qui était en charge de tout ce qui était protection des propriétés intellectuelles, droits d'auteur, etc.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le cadre posé pour ces élections législatives ? Comment sont comptabilisées les prises de parole de chaque parti sur l'ensemble des médias audiovisuels ?
En fait, le temps de parole, la répartition et le décompte du temps de parole dans le cadre de ces élections législatives, en fait, n'est pas différent de ce qui se passe habituellement en matière d'élection. Il faut savoir qu'à chaque élection, quelle qu'elle soit, ça a été le cas pour les européennes, là encore, il y a très peu de temps, l'ARCOM publie une recommandation. En l'espèce, là, il a publié une recommandation le 10 juin 2024 à l'occasion du lancement de la campagne des élections législatives. Et les règles d'une élection à l'autre sont à peu près toujours les mêmes. Donc là, il n'y a pas effectivement de spécificité particulière, on va dire, pour ces élections législatives.
Peut-être simplement le principe d'équité ?
C'est ça. Donc, pour chaque élection, alors, les européennes, c'était un peu particulier, puisqu'elles étaient, c'est des élections à un tour. Mais en général, les élections sont à deux tours. Et donc, il y a un premier tour, effectivement, avec le temps de la campagne. Et puis, effectivement, un deuxième tour. Donc, en ce qui concerne le premier tour, sachant que l'élection, le décompte a été pris en compte à partir du mardi 11 juin, jusqu'à la veille, jusqu'au 29 juin, donc oui. Veille effectivement de l'élection. Donc, et là, effectivement, c'est le principe de l'équité qui s'applique. Et au deuxième tour, ça va être le principe de l'égalité. Alors, l'équité, c'est quoi ? C'est permettre à chaque candidat d'avoir un temps de parole qui soit équitable par rapport, en gros, c'est proportionné à ses résultats sur les élections précédentes dans les circonscriptions concernées, hein, évidemment. Donc ça, là, en l'espèce, ça va être les précédentes élections législatives, l'élection européenne qui vient de se dérouler, éventuellement les élections municipales. Voilà, un petit peu quel est le poids, finalement, de chaque candidat, voire de chaque parti sur chaque circonscription, et d'avoir, du coup, un temps proportionné à ce poids. Donc les élections, évidemment, le résultat des élections va être pris en compte, mais également, on peut avoir des prises en compte des sondages. Voilà. Donc ce n'est pas une science exacte, sinon ça peut être très compliqué de déterminer le temps à donner aux uns aux autres, mais enfin l'idée étant quand même que voilà, il y ait une proportion et que chacun puisse s'exprimer sous une forme ou sous une autre.
Qu'est-ce qui est considéré comme un temps de parole? Celle des candidats seulement ou d'autres?
Les temps de parole vont être décomptés et les médias doivent décompter effectivement des temps de parole, évidemment bah, des candidats eux-mêmes, des personnes, des personnalités des partis représentés, et puis des supports de toute personnalité qui apporterait effectivement un support aux candidats. Donc en gros, voilà, les partis, les candidats, les partis et toutes les personnalités apportant un support à ces candidats.
Mais si par exemple, si sur une émission de radio ou de télévision, un journaliste ou un éditorialiste s'exprime sur tel ou tel parti, est-ce que ça, c'est un temps de parole qui est pris en compte?
Alors, a priori, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une invitation qui est faite à être quand même extrêmement vigilant de manière effectivement à ce qu'un parti soit ne soit pas favorisé au détriment des autres, par exemple son programme qui serait mis en valeur, etc., ou au contraire qui du coup serait éventuellement très critiqué et sans avoir peut-être la possibilité de se défendre. Donc, effectivement, si on a des éditorialistes ou des journalistes qui vont commenter effectivement les programmes des uns et des autres et que cela se fait de manière assez équilibrée, il n'y a absolument effectivement aucun souci parce qu'a priori, ce temps de parole-là n'est pas pris en compte. Mais si effectivement on voit que y a un programme qui va être particulièrement ciblé, soit pour être plutôt favorisé, encouragé, soit au contraire pour être critiqué. C'est vrai que là, on va alerter le média sur le fait qu'il puisse éventuellement apporter un certain équilibre.
Et qui doit vous faire du coup ces rapports de temps de parole exprimés? C'est les chaînes des médias? Et à quelle fréquence doivent-ils vous faire un retour?
Alors après, ça dépend, mais effectivement, les médias doivent faire remonter, notamment les médias nationaux, hein, doivent faire remonter leur temps de parole via des questionnaires qu'ils remplissent de manière extrêmement précise. Bon, les gros médias ont quand même des moyens personnels hein, pour pouvoir faire ça, même si c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on demande forcément aux radios locales, mais les radios locales nous font remonter un petit peu effectivement les émissions qu'elles souhaitent mettre en place dans le cadre des campagnes. Et en ce qui concerne effectivement les médias locaux, on peut être également saisi a posteriori, c'est-à-dire que voilà, si un candidat ou des auditeurs ou téléspectateurs hein, se plaignent peut-être ou en tout cas ont une suspicion sur la manière dont telle ou telle partie a été traitée, peuvent nous saisir effectivement pour qu'on puisse vérifier si un temps de parole équitable puis égalitaire a bien été donné à tous les candidats.
Au-delà des chaînes de télévision ou des médias radiophoniques, on voit aussi qu'il y a certains influenceurs qui s'expriment en ce moment sur ces élections. On voit aussi des footballeurs qui donnent leur opinion. Alors, au-delà justement de donner leur avis, on sait que ces personnalités, elles ont un réseau, ça peut avoir un impact, même en termes de visibilité, sur telle ou telle couleur politique. C'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte de ça au sein de l'ARCOM ou ça reste compliqué?
Alors, ça, on ne peut pas prendre toutes ces prises de parole en compte au sein de l'ARCOM, pour la simple et bonne raison. Alors, d'abord, qu'elles relèvent quand même effectivement, de point de vue personnel et citoyen, hein, donc, et y compris d'ailleurs sur des médias hertziens et radio-télé, des personnalités ont le droit, évidemment, de s'exprimer. Par contre, si elles s'expriment en soutien d'un programme ou d'un parti, leur temps de parole va être décompté pour le coup. Mais donc, l'ARCOM a une compétence légale sur les médias qu'on dit hertziens, c'est-à-dire les radios et les télévisions. Effectivement, l'ARCOM ne va pas avoir de compétence de régulation en la matière, en matière de pluralisme, de respect du pluralisme, sur les réseaux sociaux, notamment les médias digitaux. Et alors évidemment encore moins, et sur la presse écrite également non plus, l'ARCOM n'a pas de compétence de régulation sur la presse écrite. Effectivement, elle n'a pas contrôlé ce qui se dit sur Libération, Le Figaro, Le Monde ou autre. Et évidemment, alors pour des prises de parole de personnalité, bon là, tant qu'on reste dans effectivement une opinion exprimée, mais sans après rentrer dans un détail de support où la personnalité, voilà, si, je le répète, si la personnalité est considérée comme un support, son temps de parole peut être écouté.
Sur Internet, vous avez tout de même des préconisations aux plateformes en ligne à continuer à prendre en compte les préconisations publiées par l'ARCOM. Aujourd'hui, c'est compliqué de rendre compte des temps de parole sur cette plateforme. Pour l'instant, ce n'est pas votre rôle.
Non, pour l'instant, ce n'est pas notre rôle. Les seuls, effectivement, qui vont être contrôlés, c'est les médias hertziens qui sont déjà contrôlés par l'ARCOM et leurs extensions sur les réseaux sociaux. Ça peut être des chaînes YouTube, etc. Mais effectivement, prenons un exemple précis, Hugo Décrypte,
Ouais.
par exemple, effectivement, Hugo Décrypte peut à ce jour inviter qui il veut, comme il veut. Il n'y aura pas, effectivement, lui n'a pas, en tout cas d'un point de vue de régulation, peut-être que lui va s'imposer effectivement des règles de pluralisme et
D'éthique,
d'équilibre,
ouais.
et donc il va décider d'inviter effectivement, mais il n'y est pas obligé au regard des textes à l'heure actuelle.
En effet, l'ARCOM n'a pas la mission de contrôle sur les plateformes, les réseaux sociaux sur Internet, ni sur la presse écrite. On remercie Christine Derville, secrétaire générale de l'ARCOM, pour son éclairage sur la régulation des temps de parole à la télévision et à la radio, qu'elles soient privées ou publiques.
On vous précise que si dès aujourd'hui vous voulez connaître les décomptes de temps de parole, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ARCOM, arcom.fr.
Radio B, les bonnes ondes.
Lutte contre l'ambroisie dans le département de l'Ain.
À l'occasion des journées de lutte contre l'ambroisie du 15 au 30 juin, la préfecture de l'Ain et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes rappellent l'importance de la mobilisation de toutes et tous contre cette plante très allergisante. Près de 55 000 personnes seraient allergiques à son pollen dans le département.
Actuellement, la lutte contre l'ambroisie est encadrée par un arrêté préfectoral dans chaque département de la région. Un réseau de référents communaux et intercommunaux de 350 agents est mobilisé dans l'Ain.
Pour reconnaître l'ambroisie, rendez-vous sur le site de l'ARS de la région. Chacun peut avoir un rôle sur la destruction de cette plante, notamment dans son propre jardin, soit en l'arrachant soi-même, soit en signalant sa présence.
Pour cela, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Signalement Ambroisie ou appeler au 0972 376 888. L'info locale sur Radio B. Projet d'incinérateur, le coût du projet de chaufferie contesté.
Créé en 2002, Organum est un syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Depuis 2017, il regroupe 9 intercommunalités du département de l'Ain, soit 193 communes et plus de 342 000 habitants. Après avoir été collectées, les ordures ménagères des collectivités adhérentes à Organum sont traitées sur le pôle de traitement et de valorisation de la Tienne. La matière organique est extraite pour être transformée en biogaz et en compost.
Aujourd'hui, 50% des déchets sont valorisés, mais les 50% restants sont encore enfouis, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni recyclés ni valorisés.
Pour tendre vers l'objectif du zéro déchet enfoui à terme, Organum veut donc agir et vite. Un projet de chaufferie et de réseau de chaleur urbain est programmé. Mais ce projet, défendu par Yves Christin, maire de l'Ain et président d'Organum, a un coût important qui n'a cessé de croître depuis que le projet est lancé. Il est passé de 35 à 60 millions d'euros, avec des remboursements d'emprunt qui passent de 2,5 à 4 millions d'euros annuels.
Trop coûteux pour nos finances, écrivent dans un communiqué 4 présidents de communautés de communes adhérentes à Organum. Ils demandent de revoir à la baisse le projet.
Reste qu'aujourd'hui, un décret oblige qu'on arrête progressivement l'enfouissement des déchets. Alors faut-il faire incinérer ces déchets ailleurs, par exemple dans le département du Rhône, qui offre des possibilités, ou bien faut-il poursuivre le projet dans l'Ain sur le site de la Tienne? Les débats sur ce projet de la nouvelle chaufferie et son coût risquent de se poursuivre.
L'un dans l'autre, l'interview. Les tiers-lieux sont devenus des plateformes de services qui contribuent à la vitalité de tous les territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains, urbains ou quartiers politiques de la ville. Nous avons rencontré une salariée et une bénévole active au sein de l'un d'entre eux, la Fabrique du Revermont. Un tiers-lieu, c'est un lieu où l'espace et les compétences sont mutualisés. Selon francetierslieux.fr, ces espaces de vie et d'échange ont en commun ces cinq piliers. L'entrepreneuriat ancré dans le territoire, un volet expérimental et créatif, l'hybridation des activités et des revenus de la structure, la convivialité et la libre constitution. Ces tiers-lieux ou « third place » ont été théorisés aux États-Unis au début des années 80 par Ray Oldenburg, qui les a définis en parallèle avec le premier lieu, soit le domicile, et le second lieu, soit le travail. Ce sont des lieux où peuvent se mêler des espaces justement de travail partagés, des fab labs, des activités manuelles pour toute la famille, des salles de spectacle et bien d'autres choses encore. Le phénomène lié à la création de ces espaces de rencontres informels, où chacun peut s'entraider, gagne rapidement du terrain en ville, avant de s'étendre à nos campagnes. Aujourd'hui, la majorité d'entre eux, et il en existe 20 sur le département, sont situés en milieu rural. C'est le cas de la Fabrique du Revermont, dont nous allons parler aujourd'hui avec Marie-Lou Moucher et Marie Venet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, chacune votre tour, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous rattache à la Fabrique du Revermont?
Je commence. Du coup, moi, c'est Marie-Lou. Moi, je suis salariée de la Fabrique du Revermont depuis bientôt 2 ans. Donc, ce qui me rattache, bah, c'est mon emploi. Mais avant ça, j'ai été bénévole pendant 1 an sur le lieu. Et j'ai été bénévole et je vois aussi mon travail de cette manière, comme un accompagnement au projet de territoire, comme le fait de m'investir dans le lieu où je vis. Et donc, voilà.
En gros.
Et moi, donc, Marie Venet, donc, je suis bénévole depuis... un certain nombre d'années. Le projet a commencé à vivre en itinérance une fois par mois. On allait dans les communes du Revermont pour proposer différents temps d'animation intergénérationnelle. Et j'ai rejoint du coup le COTEC, donc Comité Technique, qui est l'équivalent du CA, il y a bientôt 2 ans.
Alors, le projet des Fabriques, au départ, qu'est-ce que c'est ?
Du coup, c'est l'association le MRJC qui avait des bureaux et des appartements à Paris. Et au moment de les vendre, il y a eu des grandes orientations avec des personnes de partout en France pour décider en fait de comment on investit cet argent-là. Et ça a été décidé que ce serait dans des lieux en milieu rural. Du coup, le projet est né comme ça il y a plus de 7 ans. Chaque fabrique, il y en a plusieurs en France, est différente, a des espaces différents, répond à des problématiques de territoire différents et donc du coup s'adapte en fonction du lieu et du territoire où elle se situe. Et donc la Fabrique du Revermont, elle se base sur un diagnostic de territoire qui a été fait du coup avant 2017 sur plusieurs thématiques, la famille, le travail, la culture. De ça est sorti ce qu'on a appelé un livre blanc avec plein de préconisations sur comment ce lieu pourrait répondre aux besoins des habitants. Et après, le lieu a été acheté en 2017 et depuis, essaye de répondre à toutes les problématiques soulevées avec des mises à jour de ce diagnostic régulière.
Alors, quelle est, pour chacune, votre définition du tiers-lieu ?
Pour moi, Marie, c'est un espace autre dans lequel on peut s'exprimer, faire grandir, pourquoi pas, des rêves, des projets. Et c'est un espace de solidarité, d'échange intergénérationnel aussi, et de pouvoir avoir accès à des choses plus facilement quand on devait en faire un certain nombre de kilomètres pour rejoindre des services qui sont en ville.
Pour moi, ce fait d'avoir un troisième lieu qui n'est ni travail ni famille, c'est souvent comme ça que je l'explique aux personnes qui ne connaissent pas la Fabrique en premier lieu. Pour moi, c'est vraiment un lieu de vie dans lequel on va pouvoir créer des espaces de rencontre, des espaces de liens. Tiers-lieux, c'est un peu un mot aussi fourre-tout. Plus ça va, plus en fait les tiers-lieux, ils sont très divers et variés. Et du coup, là, moi, ce que je vois notamment avec la Fabrique ou avec les autres tiers-lieux que je visite, c'est que ça reste des espaces de rencontre et d'échange. Et là, avec la Fabrique, ce qui n'est pas le cas par contre dans d'autres, mais c'est la pluralité aussi de choses qui sont proposées. Il y a des tiers-lieux qui sont que des Fab Labs. Bon, bah, il y a une activité. Là, à la Fabrique, on a plusieurs secteurs d'activité. On a plusieurs propositions pour différents âges, différents moments de la semaine. Enfin, voilà, qui touchent à plusieurs ça. Et ça répond un peu à ma définition du tiers-lieu, cette chose de mixité et de diversité, voilà.
Donc, on a entendu les mots citoyen, éducation populaire et aussi territoire. Comment les gens qui vivent sur ce territoire sont associés au projet de la Fabrique ?
Déjà, du coup, comme c'est un projet associatif, il y a déjà tout l'aspect démocratique. Il y a une assemblée générale chaque année où les habitants du territoire sont invités en fait à participer, à exprimer leurs envies, leurs besoins. Et ensuite, bah, les membres, du coup, bénévoles, c'est aussi des jeunes et des habitants du territoire. Marie-Lou, dans son temps salarié, a un temps qui est dédié aussi sur l'accompagnement en fait, des projets des habitants pour qu'ils puissent voilà, bénéficier d'un réseau. C'est un lieu où, qui est ouvert, il suffit de pousser la porte. On peut simplement venir boire un café ou venir interroger les salariés et proposer des projets, des envies.
C'est les habitants qui vont s'investir dans la gouvernance du lieu et ce lieu, il fonctionne par et pour les habitants. Et puis après, du coup, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a plusieurs espaces et donc il y a un espace de travail partagé. Donc il y a des personnes, associations, personnes individuelles ou mini-entreprises qui vont venir travailler. Donc ça va être aussi une autre typologie de personnes qui s'investit dans la Fabrique comme du coup lieu de travail pour ces personnes-là. Les personnes viennent avec des propositions, des appétences, des savoir-faire, le proposer dans le lieu. Et nous, on aide à la structuration du projet si besoin, mais aussi c'est des fois des projets tout faits où les habitants cherchent juste un lieu ou un réseau de communication à faire. Et du coup, en fait, il y a plein de portes d'entrée pour rentrer à la Fabrique. Quand on vient à la Fabrique proposer un atelier, on a accès aux espaces. Il y a dedans tout ce qui va être de la logistique, de l'impression, de Wi-Fi, de tous ces besoins un peu logistiques, et aussi du réseau partenarial et du réseau de communication qu'a la Fabrique pour aider à développer le projet si tant est que la personne a envie de développer son projet, et aussi juste de faire venir les personnes à cet atelier-là à la Fabrique.
Comment on crée un tiers-lieu ? C'est quoi le point de départ ?
C'est hyper vaste et que pareil, ça dépend de plein de choses. Enfin, du coup, nous, on fait partie d'un réseau tiers-lieu et en fait, dans le réseau tiers-lieu de l'Ain, on est toutes et tous très différents et on est toutes et tous pas du tout créés de la même manière. Il y a des tiers-lieux qui vont être créés par des municipalités, il y a des tiers-lieux qui vont être créés par des associations, il y a des tiers-lieux qui vont être créés par des collectifs d'habitants et d'habitantes. C'est hyper divers. Peut-être que quelque chose qui nous relie un peu toutes et tous, ça va être la volonté de répondre à des besoins de territoire, ce qui s'appuie sur, ça peut être des questionnaires, ça peut être aller interroger les gens du village si c'est dans un village, enfin, en tout cas quelque chose de volonté, d'aide et de dynamisme dans un certain rayon d'un certain territoire.
Ce que je dirais aussi, c'est que c'est aussi pouvoir s'appuyer sur des partenaires institutionnels. Ils ont aussi des compétences avec des techniciens et qui peuvent faire avancer les réflexions et nous aider aussi sur des appels à projets pour financer ces lieux et ces initiatives-là.
Est-ce qu'il y a des différences majeures entre des tiers-lieux qui pourraient être en milieu urbain ou en milieu rural, et lesquels ?
Comme tu l'as dit aussi, dans l'Ain, on est plus en milieu rural. Et donc, je connais pas tant de tiers-lieux que ça, en fait, en milieu urbain. Mais je pense que, en fait, les tiers-lieux, ils se construisent avec les gens qui sont autour d'eux. Et donc, du coup, ils répondent aux problématiques autour d'eux. Donc, on va pas avoir les mêmes problématiques. En milieu rural, il y aura la problématique de la mobilité, qu'en milieu urbain, il y aura peut-être moins. Et puis, peut-être qu'en milieu urbain, il y aura moins de problématiques aussi culturelles, parce qu'il y aura beaucoup d'offres autre part dans la ville et en milieu rural aussi. Et du coup, je pense que ça se construit avec les gens autour, donc ça dépend encore.
Alors, le lieu de la Fabrique est en pleine évolution. Donc, il est probable qu'il y ait bientôt plus de locaux. C'est toujours d'actualité ou pas ?
Il y a un projet de vente des bâtiments. Voilà, on est en pleine réflexion sur la suite du projet. Actuellement, c'est un projet en fait qui est porté par un seul une seule association. Donc voilà, c'est toutes des réflexions sur comment on peut faire la suite, avec qui, comment les partenaires nous accompagnent et nous suivent vers ces choix-là.
Pour l'instant, on a encore des locaux au minimum jusqu'au printemps 2025. Mais ça ne veut pas dire que toute la dynamique qui a été créée va mourir. Si c'est le cas, ça sera le cas. Mais c'est aussi possible que d'autres choses renaissent ou d'autres choses continuent. Et dans ce cas, comment on oriente et qui porte la suite? En fait, on a envie et besoin d'avis extérieurs et de personnes qui ont envie d'imaginer un peu quelle sera la suite.
Donc, territoire du Revermont, ça s'étend de où à où?
Si on suit la carte de Grand Bourg Agglomération, c'est 21 communes qui vont de Coligny à Saint-Martin-du-Mont et de Cise, Haute-Cour-Romanèche, à de l'autre côté, Jasseron, Césaria. En gros, ça fait une bande. Après, c'est la théorie. Si les gens ne viennent pas de ces villages, on ne va pas les refuser.
Ouais. Merci à vous.
De rien, merci à toi.
Mais avec plaisir.
Le dispositif des fabriques de territoire a été lancé par l'État en lien avec France Tiers-Lieux en avril 2020.
Avec un budget de 45 millions d'euros, il a permis de sélectionner 300 projets de fabriques entre 2020 et 2021.
Les fabriques sont réparties entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou QPV et les territoires ruraux. L'État les soutient pour 3 ans à hauteur de 50 000 euros annuels.
Le temps pour ces structures de conforter leur équilibre économique.
Une attention particulière a été accordée aux initiatives liées au numérique dans toutes ses dimensions. Cette année, le dispositif souhaite accompagner à la création, mais également accélérer le développement des projets déjà en cours. Les candidatures sont recevables en ligne sur www.démarche-simplifiée.fr jusqu'au 17 juillet.
Radio B, les bonnes ondes.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine et merci à notre stagiaire Hortense qui réalise ce magazine.
Merci à toutes les deux. On vous retrouve à la rentrée en septembre prochain. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur radio-b.fr.
On vous souhaite un bel été.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.